Black Power, histoire et musique du peuple afro-américain, épisode 6, l'émergence du mouvement bebop, première partie. Août 1942, le syndicat national des musiciens décrète la grève des enregistrements et demande une augmentation des royalties pour pallier à l'utilisation abondante des jukebox, des disques et de la radio. Cette grève de 2 ans entretiendra dans le secret, loin de toute exploitation commerciale immédiate, les longues nuits expérimentales durant lesquelles les prémices du bebop se font entendre. Les jeunes révolutionnaires se rencontrent after hours, loin des pupitres d'orchestre, et expérimentent une nouvelle façon de faire entendre leur voix, grâce à leur figure rythmique innovante, aux recherches harmoniques et à la place importante qu'ils donnent à l'improvisation. En pleine construction, le bop s'enrichit chaque nuit de longues discussions, de réflexions, de confrontations théoriques mises en pratique durant les jam sessions. Chacun y va de sa personnalité et aide à unifier le discours moderne. Quelques-uns d'entre eux prendront en main les rênes de cette évolution, dont l'étincelant Charlie Parker, ainsi que John Burks Gillespie, surnommé Dizzy, le farfelu, les cervelés. C'est au sud de Harlem, dans le club étroit du Minton's Playhouse, que l'on trouve l'un de ces laboratoires musicaux nocturnes. Alors que le chef d'orchestre Teddy Hill vient de prendre la direction artistique du club, il donne carte blanche au jeune batteur Kenny Clarke pour mettre en place une petite formation servant d'accompagnement aux nombreux musiciens venus faire le bœuf après leurs engagements. Le trompettiste Joe Guy et le bassiste Nick Fenton acceptent la proposition, ainsi que le pianiste Thelonious Monk, avec qui Clarke partage déjà quelques idées novatrices. Situé dans le même quartier, le Monroe's accueille aussi ses nouveautés musicales, avant que ces dernières prennent d'assaut les clubs de la 52e rue, baptisée The Street, qui réunit alors les meilleurs jazzmen, toutes générations confondues. Une série d'enregistrements pirates faites aux Mintons et aux Monroe's nous offre l'occasion de s'immiscer dans l'ambiance de ce mouvement en pleine effervescence. Ici, Charlie Christian, qui révolutionna le rôle de la guitare électrique, improvise avec Dizzy Gillespie sur Swing to Bop. Thank you. musiciens se croisent et chacun apporte sa pierre à l'édifice, revendiquant l'héritage de leurs anciens. Las du cadre rigide de l'orchestre, ils prennent la parole, qui reflète le profond état de malaise de leurs frères de couleur, assaillis par le racisme, privés de démocratie, alors que le gouvernement les envoie combattre le fascisme en Europe. Pourtant, les représentants des États-Unis n'ont pas besoin d'aller bien loin pour lutter contre l'injustice. Miles Davis nous raconte que beaucoup de Blancs n'aimaient pas ce qui se passait dans la 52e rue. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à la musique. Ils pensaient être envahis par les nègres de Harlem. Il y avait une forte tension raciale autour du bebop. Mais, précise-t-il, cela n'empêchait pas le public de s'entasser dans les clubs pour les entendre, ni le groupe de Dizzy et Bird aux Three Deuces d'être l'attraction la plus hot de tout New York. Car le bop naît en dehors des cadres. On y retrouve l'élan des rent parties des années 20, avec des marginaux, des provocateurs, des jeunes pleins d'imagination, au style vestimentaire et au langage codé, qui entretiennent la différence pour se démarquer du monde blanc et de la bourgeoisie noire. Mais au-delà des symboles, c'est le langage musical qui se métamorphose. Charlie Parker racontera plus tard qu'en improvisant sur Cherokee, il entendait une musique dans sa tête qui lui était impossible de retranscrire avec les enchaînements d'accords du jazz swing. Ils sont alors plusieurs à ressentir cette frustration et développent une harmonie particulière à leurs envies. En puisant leurs matériaux dans les standards, les boppers bouleversent les grilles d'accords en les enrichissant d'accords complexes et en retardant l'arrivée, parfois trop attendue, d'un accord. Il revitalise aussi les vieux thèmes, qui deviennent méconnaissables, en créant de nouvelles mélodies qui se heurtent et qui déroutent l'auditeur. Ainsi, Cherokee se métamorphose en Coco, et What Is This Thing Called Love qui devient Hot House. Ce procédé ne devient pas systématique, puisque de nombreux thèmes originaux seront composés par les musiciens modernes. De son côté, la section rythmique se retrouve chamboulée, notamment par le batteur Kenny Clark, qui désarticule les ponctuations et souligne, stimule la ligne mélodique du thème avec la caisse claire. Il anticipe, répond, oriente et suit le soliste tout en maintenant le tempo avec la grande cymbale et en libérant le champ d'action de la contrebasse. Avec lui, la batterie devient un instrument à part entière, en s'intégrant aux arrangements, aux riffs et aux solos. Le bassiste, quant à lui, garde sa fonction métronomique. Il soutient le tempo, mais il se doit d'être souple, vigoureux, véloce, tout en possédant une grande intuition harmonique. We'll be right back. tous ses traits caractéristiques peuvent éclairer sur ce qu'est le pop, ils ne peuvent pas le fondre dans un moule formel, car ce style s'enrichit sans cesse à travers la personnalité de chacun de ses acteurs. Le bebop est l'œuvre de musiciens cultivés, qui usent de la réflexion et de l'intuition pour faire éclater les logiques préexistantes et qui refusent le confort esthétique. Les joutes musicales reflètent d'ailleurs bien cet esprit, dans lequel il n'y a pas de place pour la médiocrité. Les improvisateurs se provoquent, expérimentent, se combattent en vue d'acquérir une réputation. Mais leur mentalité va au-delà du simple affrontement, car c'est un acte de partage où communient les esprits musicaux. Car si l'un d'entre eux est arrivé à éblouir tout le monde un soir, il sait qu'il se fera devancer le lendemain par un autre. Charlie Parker va stupéfier tout le monde avec son jeu novateur. Né en 1920 à Kansas City, il est élevé par sa mère dans le ghetto de la ville, à quelques pas du Reno Club. À cette époque, Kansas City est le haut lieu des cabarets, des honky-tonk, des dancing, des saloons et des nightclubs entretenus par la pègre locale. Les musiciens jouent jusqu'à l'aube, et un petit garçon les écoute au pas de la porte, en prêtant particulièrement l'oreille à son idole, le saxophoniste Lester Young. Il est à tel point fasciné que sa mère dépense ses quelques sous d'économie pour lui offrir un saxophone alto d'occasion. Elle n'a malheureusement pas les moyens de lui payer des leçons, mais qu'importe. Parker est bien décidé à apprendre. Il ose et commence à fréquenter les orchestres de collégiens et les petits groupes locaux.
Hello, little girl, don't you remember me? Hello, little girl, don't you remember me? Time ain't been so long, but I've had a break, you see.
Mais ses débuts ne sont pas très brillants. À la suite de deux jam sessions, Parker se retrouve ridiculisé, moqué et chassé de la scène par les musiciens et le public, et en sort véritablement blessé. Mais loin de là l'idée d'arrêter la musique. Parker va s'acharner à apprendre seul ses gammes, à décortiquer les tonalités, les accords, à apprendre par cœur les chorus enregistrés de Lester Young et à sculpter sa sonorité. Ce regain de confiance l'amène soudainement à partir pour New York. Et pour vivre dans cette grande ville, Charlie est obligé de trouver un emploi non musical. Ce sera le seul de toute sa vie, mais le choix est stratégique. En effet, il devient plongeur au Jimmy's Chicken Shack, le restaurant où se produit tous les soirs comme vedette le grand Art Tatum, qu'il entend depuis les cuisines. Son contact quotidien avec le pianiste influencera son jeu, notamment à travers les envolées mélodiques dont Tatum est familier.
Thank you.
Après quelques engagements et un triomphe au Savoy Ballroom, Parker mène une double vie entre l'orchestre de Jay McCann et les jam sessions de Harlem. Il participe en 1942 aux Nuits du Minton's et du Monroe's, où il se lie d'amitié avec Dizzy Gillespie, Thelonious Monk et Kenny Clarke. Ces derniers sont impressionnés dès la première écoute par celui que l'on surnomme dorénavant Bird. Clarke dira de lui « Il jouait des choses que je n'avais jamais entendues. Il suivait des schémas rythmiques que moi-même j'avais découverts à la batterie. Il avait deux fois plus de virtuosité que Lester Young, mais surtout, il abordait tout un univers harmonique dans lequel Lester n'avait jamais fait d'incursion. » Bird suivait en fait le même chemin que nous, mais il nous précédait déjà de quelques longueurs. Communauté musicale est en émoi devant le saxophoniste. Et à ce moment, Charlie Parker devient le complice de Gillespie, avec qui il a un coup de cœur musical. Ce trompettiste, né en 1917 en Caroline du Sud, a grandi dans une famille modeste et s'intéresse très tôt à la musique. À 15 ans, il a la possibilité d'étudier à l'Institut de Lorenberg, où il travaille sérieusement la trompette, l'harmonie et la théorie musicale. Déjà connu pour ses excentricités, celui que l'on surnomme Dizzy est pris dans l'orchestre de Teddy Hill avant de rentrer dans celui de Cab Calloway, mais ce dernier le renvoie, ne supportant plus ses audaces harmoniques qu'il qualifie de notes chinoises. Il joue alors dans diverses formations, dont celle de Duke Ellington, et développe en parallèle son jeu acrobatique durant les jam sessions. En 1943, il est engagé avec Charlie Parker dans l'orchestre de Earl Hines en compagnie d'une grande dame, Sarah Vaughan. Il se retrouve une année plus tard dans la formation de Billy Eckstein où Miles Davis fait des débuts très prometteurs. Et ils enregistrent le 31 décembre 1944 Interlude, A Night in Tunisia, composé par Dizzy Gillespie.
Was unsurpassed, too good shadow of night all around me. I walk in a moonlight solitude. When I thought romance really found me, love was just an interlude. Shadow of night all around me. I walk in a moonlight solitude. When I thought romance really found me, love was just an
L'élan du bop est donné, et ils enregistrent en janvier 1945 le morceau Bebop qui sonne comme un manifeste. Dizzy et Bird poursuivent leur association aux Three Deuces, où ils deviennent le tandem le plus recherché et le plus controversé de la 52e rue, qui défraie les chroniques souvent assassines. En février, ils entrent de nouveau en studio pour enregistrer Groovin' High, All the Things You Are et Dizzy Atmosphere. Puis ce sera au tour des morceaux Show Newf, Hot House et Salt Peanuts d'être gravés, marquant ainsi les faces fondatrices du bebop.
Salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts.
Les Boppers tentent alors de faire découvrir leur musique au public de Los Angeles, qui leur accorde un accueil mitigé, mais la presse signe quelques critiques élogieuses. Alors que chacun est prêt à reprendre l'avion pour la côte Est, l'un d'eux manque à l'appel. Il s'agit de Charlie Parker, qui a revendu son billet pour s'acheter un peu de drogue. En attendant son retour, Gillespie monte un big band explosif, avec notamment Thelonious Monk, Kenny Clarke, Milt Jackson, le vibraphoniste, et plus tard, John Coltrane. Il amène avec rigueur et humour son groupe dans plusieurs tournées, dans tout le pays, ainsi qu'en Europe, et plus particulièrement en France, où le groupe enregistre un concert mémorable à la Salle Pleyel de Paris en 1948. Pendant ce temps, Parker revient et se réinstalle aux Three Deuces avec entre autres Miles Davis et le batteur Max Roach. Beaucoup s'accordent à dire que l'art de Bird est alors à son apogée. Il signe de magnifiques sessions durant les années 1947 et 1948 avec notamment Scrapple from the Apple. Il est entouré de musiciens réguliers dont le grand pianiste Bud Powell et ses solos, empreints d'une grande inspiration, se déploie à une allure vertigineuse. Malheureusement, Charlie Parker connaît de graves problèmes personnels, et la drogue amplifie l'incohérence de son comportement. Le reste de sa carrière sera un incessant va-et-vient entre prestations, enregistrements et abus d'alcool et de drogue. Et en 1952, il retrouve en studio ses vieux complices, Thelonious Monk et Dizzy Gillespie, qui poursuivront leur carrière à travers les décennies. Ils enregistrent ensemble l'album Deeds and Bird, 3 ans avant la mort du saxophoniste, qui laisse un immense héritage derrière lui.
Thank you.